en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
La science informatique a révolutionné nos habitudes de vie. Comment pourrions-nous imaginer à l'heure actuelle faire des recherches sans Internet? Comment vivre sans carte bancaire? Ou encore comment faire un diagnostic médical poussé sans radiographie, échographie ou encore IRM? Dans un colloque organisé par l'Académie des sciences en février 2009, intitulé « Traitement et information », organisé conjointement avec la Société de l'électricité, de l'électronique et des technologies de l'information et de la communication, la question centrale était la suivante: que représente le traitement de l'information aujourd'hui et quels sont les défis posés à la science et à la société? Canal Academy a fait le choix de scinder ce colloque en deux parties dont vous allez pouvoir écouter ici le deuxième volet. Deux intervenants vont prendre la parole dans quelques instants. Tout d'abord, Claude Bérou, il est membre de l'Académie des sciences, professeur à Télécom Bretagne et conseiller scientifique du laboratoire de sciences et technologies de l'information, de la communication et de la connaissance. Il évoque la théorie de l'information et les télécommunications. Le deuxième intervenant n'est autre qu'Albert Fert, prix Nobel de physique, membre de l'Académie des sciences. Il développe quant à lui l'impact de la spintronique sur la technologie de l'information et de la communication. Tout de suite, Claude Bérou.
Je dirais plus exactement la théorie de l'information au cœur des télécommunications, car il n'y a pas de communication sans information, le plus souvent, ou pour le moins dans les milieux sensés, et réciproquement bien sûr aussi, l'information qui ne se propage pas n'a aucune utilité. Alors je ne sais pas si au lieu du savoir, ici même, on a déjà célébré dignement ce double Big Bang, cette prodigieuse coïncidence en 1948 qui a conduit en même temps à l'invention du transistor par Bardeen, Bratton et Shockley au Bell Labs et à l'invention, ou plutôt à la mise au point de la théorie de la communication que Shannon y tenait vraiment. Il ne voulait à cette époque pas l'élargir à l'information, il disait communication. Donc le bit est, du côté matériel, le composant, le transistor capable, par son état bloqué ou conducteur, de le représenter. Alors, la théorie de l'information a des enjeux, concepts et des limites que je vais vous présenter. Donc, la théorie de l'information traite principalement de problèmes d'écriture. L'enjeu, l'objectif étant avant une transmission ou un stockage dans une mémoire de masse, de réduire au maximum la quantité d'informations. Et donc cela fait appel à ce qu'on appelle le codage de source ou pour le grand public la compression numérique avec toutes les normes qui vous sont familières, MPEG 2, MP3, MP4, Musicam, etc. Lorsque l'on a réduit la quantité d'informations à transmettre, il faut la sécuriser. Et aujourd'hui c'est un problème extrêmement important dans les systèmes de télécommunication, surtout les mobiles bien sûr. Avec toutes les sciences associées au chiffrement, à la cryptographie, à la stéganographie. La stéganographie consiste à rajouter des messages cachés dans des messages connus, par exemple pour des problèmes de copyright. Lorsqu'on a fait ça, eh bien, il faut protéger le message avant de le transmettre. Et pour ce faire, on va utiliser le codage de canal qui est complètement opposé au codage de source, en ce sens qu'on va rajouter du message. Mais ce message rajouté l'est intelligemment et va permettre au récepteur de corriger les éventuelles erreurs jusqu'à une certaine limite, bien sûr. Donc le codage de canal, c'est parfaitement synonyme de codage correcteur ou codage redondant. Lorsqu'on a fait ce travail de préparation, il s'agit maintenant de transmettre, de porter le message et de l'adapter au milieu physique qui va le porter vers le récepteur. Et là, on fait appel à des techniques de modulation, en passant évidemment par des filtrages, des amplifications. Beaucoup de progrès ont été faits sur les modulations ces dernières années, notamment pour lutter contre les chemins multiples. Vous savez, les problèmes physiques auxquels sont confrontés les systèmes de télécommunications mobiles. On en a parlé un peu ce matin, réflexion sur les bâtiments, sur les véhicules, etc. Donc, beaucoup de progrès en utilisant la transformée de Fourier ou transformée de Fourier inverse ont été obtenus sur les modulations modernes. Alors, du côté du récepteur, on va appliquer les fonctions duales à toutes celles-là. Et puis d'autres telles que l'égalisation qui lutteront contre les interférences. Alors tout ceci se fait indépendamment du sens du message, du contenu du message, de la signification. Pour nous, en télécommunication, en mot réel, c'est parfaitement pareil. C'est utilise 35 bits en code ASCII primaire. Alors une petite quand même nuance en ce qui concerne le codage de source. Pour extraire l'information vraiment utile d'une masse de données, il faut quand même avoir une idée du contenu, notamment physiologique pour les systèmes, enfin pour la vision et l'audition. Ça, c'était les enjeux. Maintenant, les concepts. Alors, la notion d'entropie inventée par, enfin, ou plutôt généralisée par Claude Shannon à l'information. La théorie de l'information, c'est d'abord rappeler la théorie de Shannon-Boltzmann, parce que les concepts, notamment l'entropie, ils sont partagés. Si je vous dis jour bon aujourd'hui, au lieu de bonjour, je vous apporte certainement plus d'informations. Le message est moins probable, plus surprenant que bonjour. Bon, vous pouvez y trouver les traces de mes origines. Jour bon, c'est la traduction littérale de démat. Bonjour en breton, l'adjectif est après. Mais lorsqu'il s'agit de transmettre, puisqu'il est moins probable que bonjour, il résistera mieux aux attaques du canal, aux perturbations. La robustesse de jour bon dans une transmission perturbée est moindre que la robustesse de bonjour. Ça a été toute l'originalité, la force, le génie de Shannon, que de lier message et perturbation. D'introduire les notions d'entropie de source, donc de richesse d'information, et d'entropie de canal, c'est-à-dire de désordre non maîtrisé lors de la transmission. Il établit des formules, des théorèmes fameux par ce travail d'entropie croisée, en introduisant des concepts que je ne vais pas détailler ici, tels que l'information mutuelle. Un autre concept important, c'est la redondance, ou la redondance triviale, bon, qu'on élimine généralement par le codage de source, mais il en reste toujours un peu. Le bruit, évidemment, la perturbation, qui peut être de toute nature. Ici, j'ai appliqué un bruit impulsionnel, il y a une des lettres qui s'est transformée en une autre, et l'incertitude est totale. Vous ne pouvez pas décider s'il fallait écrire « bonsoir » ou « bonjour ». Nous sommes à mi-distance des deux mots. L'interférence, évidemment, et notamment dans les systèmes de télécommunications mobiles, modernes, lorsque des chemins multiples de propagation apparaissent. La corrélation, c'est une notion extrêmement importante. Ces deux images sont normalement indépendantes, elles représentent deux astres différents, et pourtant elles sont fortement corrélées parce que je vois la Lune grâce au Soleil. C'est bien la lumière du Soleil réfléchie qui me permet de voir la Lune. Et c'est un problème extrêmement important lorsqu'il s'agit de traiter proprement l'information. Alors, il y a deux types de corrélations. Il y a la corrélation qui n'est pas maîtrisée. Celle-là est un frein à la performance. Et notamment, elle peut être à l'origine de multiplication d'erreurs. Mais lorsqu'on l'introduit volontairement, qu'on la maîtrise, qu'on en connaît la nature et l'amplitude, on peut l'exploiter en tant que diversité. La notion de distance également est importante. Les deux mots matin et malin sont extrêmement proches l'un de l'autre, la distance est de 1, amour et haine sont quand même, bien heureusement, très différents. Et la diversité intelligente qui consiste à rajouter du message diversifié. Alors la formule la plus fameuse issue des travaux de Claude Shannon, elle est à la fois une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. Alors elle dit quoi? Elle dit que la capacité, c'est-à-dire ce que l'on peut transmettre dans un canal connu, est évidemment fonction de la bande passante, proportionnelle, c'est tout à fait normal, mais elle ne varie que de manière logarithmique avec le niveau de signal. Hein, log en base 2 de 1 plus rapport signal à bruit. Alors c'est une mauvaise nouvelle, ça veut dire que pour augmenter la capacité, les débits, transmission, on aura beau augmenter le niveau de signal, le résultat sera faiblement profitable. C'est une bonne nouvelle du point de vue de la santé publique. C'est-à-dire qu'il faudra trouver d'autres moyens pour assurer des qualités de transmission et maintenir à des niveaux de quelques watts, par exemple, les niveaux d'émission des téléphones portables. Alors, les concepts, les enjeux, les limites, mais pas les solutions. La théorie de l'information n'est pas une science déductive. On ne part pas d'une équation pour concevoir un système de télécommunication. Elle est au mieux prédictive. Elle permet de déterminer des limites à la qualité du signal reçu et au débit, mais elle ne fournit pas les solutions pratiques. Il faut donc trouver des solutions ailleurs. Et d'ailleurs, la plupart des grands progrès qui ont été effectués dans les télécommunications, je pense à Viterbi, à Berlecamp, à d'autres, sont à l'origine des ingénieurs. Et on utilise la notion de diversité. La diversité est le maître mot des télécommunications, au moins dans les trois dimensions, fréquence, espace, temps. La principale d'entre elles est celle qui est donnée par le temps. Bon, la fréquence, c'est évident, il y a des fréquences qui passent mieux dans un canal de propagation que d'autres. Prenez par exemple votre ligne téléphonique, et si vous y connectez un modem ADSL, eh bien votre modèle ADSL va se charger de trouver les sous-bandes qui permettront d'optimiser le taux de transmission. C'est quand même extraordinaire. Qui aurait pu prédire il y a 15 ans qu'on pourrait transmettre des programmes de télévision de qualité sur des paires de cuivre installées il y a 50 ans ou 60 ans? On peut même y transmettre des conversations téléphoniques, c'est incroyable. L'espace aussi, et c'est un sujet très à la mode, en multipliant les antennes d'émission et de réception, c'est ce qu'on appelle les systèmes multiple in, multiple out, MIMO. Et le temps, c'est la notion de codage de canal. Aujourd'hui, des études sont également menées sur d'autres types de diversité. Par exemple, en essayant à l'image du logiciel Skype, d'utiliser les autres, d'exploiter les autres utilisateurs pour optimiser les débits de transmission, ou d'exploiter la présence de standards multiples. De plus en plus, on commence à penser à des terminaux qui seraient capables de capter à la fois 3G, Wi-Fi, WiMAX, et de choisir, à un moment donné, la norme qui est la plus intéressante. Alors, je vais maintenant axer le reste de mon exposé sur le codage de canal, qui utilise donc la diversité temporelle. Alors, si l'on veut transmettre un message dans un milieu bruité, la solution à laquelle on pense tout d'abord, c'est évidemment la répétition. Je peux, par exemple, au café tout à l'heure, si je voulais dire matin et être sûr d'être compris, je pouvais éventuellement le répéter matin, mais si mon l'interlocuteur comprend matin malin, il ne saura pas décider parce que ces deux mots existent et il n'y a aucune information supplémentaire. Le mieux est d'utiliser un synonyme intelligemment, par exemple matin aube plutôt que matin. Et si mon interlocuteur, mon éditeur comprend matin auge, il saura grâce à un dictionnaire d'équivalent et en supposant qu'il n'y a pas plus d'une erreur dans la transmission double, retrouver le mot d'origine. C'est le principe du codage de canal, c'est le principe de la diversité temporelle qui, pour le langage courant, repose sur cette propriété lexicographique. Deux mots qui sont proches, matin malin par exemple, par leur écriture, on peut de chance d'avoir deux synonymes qui eux aussi sont proches dans leur écriture. On peut aussi, si l'on dispose de ressources, utiliser des synonymes plus longs, tels que potron, minet, et même porter le pouvoir de correction à 2R1. Bon, et d'ailleurs, les langues sont pas égales vis-à-vis de ces propriétés de redondance temporelle. Le français est beaucoup plus redondant que l'anglais. Si j'ai supprimé un mot dans chacune des deux phrases ici, vous êtes capable de retrouver la première phrase. Pas du tout la seconde, avec une ambiguïté d'ordre 5. Alors, le codage de canal, c'est donc de la redondance bien pensée. Au message d'origine, qui comprend k valeur binaire, on rajoute un message redondant de l-k valeur binaire, pour former un mot de code de N bits. Et la manière dont le message est rajouté constitue le code. Et des codes, il y en a eu de nombreux depuis les travaux de Shannon. Alors Shannon, lui, il a établi ses limites théoriques sur le codage aléatoire. Pourquoi ? Parce qu'à son époque, en 1947, 48, 49, aucun code n'était connu, sauf le tirage au sort. Le tirage au sort qui consiste donc à associer un message, à constituer un espace vectoriel et à associer à chacun des cas bases un message tiré au sort. Avec l'inconvénient, c'est qu'on ne sait pas le décoder et on ne sait toujours pas le décoder. Et un gros avantage, puisque c'est statistique, on sait poser des équations et établir des limites. Donc, peut-être avez-vous déjà rencontré des noms tels que Reed Solomon. Alors, Reed Solomon est un code connu, c'est celui qui sert à protéger le contenu des CD-ROM, DVD-ROM et disques durs d'ordinateur. Les plus récents, TurboCode et Code LDPC, dont je vais parler maintenant. Lorsque j'ai commencé à travailler sur le codage, c'était à la fin des années 80, le meilleur code connu était celui-ci. Il est d'ailleurs utilisé aujourd'hui dans la télévision numérique terrestre, DVB-T, pour être plus technique. C'est un code gigogne, ou code emboîté, qui utilise le code de Reed Solomon, dont je viens de parler, précédant un code convolutif. Et le décodeur, lui, est constitué par la mise en série des deux décodeurs optimaux correspondants, l'algorithme de Viterbi pour le code convolutif et l'algorithme de Berlekamp, par exemple, il y en a d'autres, pour le code de Reed Solomon. Voilà donc ce qui se faisait de mieux en 1990 et voilà ce qui a donné lieu, par exemple, à la norme DV, de la TNT. Le problème étant que la performance obtenue sur canal gaussien était supérieure à 3 décibels à la limite théorique établie en 1948 par Claude Shannon. Et malgré tous les efforts des chercheurs de la communauté, ces 3 dB ou ces 4 décibels ne pouvaient être éliminés. Donc un profond découragement a pris cette communauté scientifique. Et c'était l'époque où on disait... Coding is dead. Et bon, du côté de Brest, on s'était aussi penché sur la question. Et puis, bon, moi, j'ai fait cette observation que je comprends pas. Enfin, elle est toute simple, elle est naturelle. Dans cet emboîtement de décodage optimaux, il y a quand même quelque chose qui ne va pas, c'est que c'est dissymétrique. À savoir que si le décodeur de code de Reed Solomon exploite bien sa propre redondance locale pour améliorer le résultat, il exploite aussi le travail du décodeur qui le précède, du décodeur de code convolutif. Ce n'est pas le cas pour celui-ci. Le décodeur de code convolutif profite de la redondance de son propre code, le code convolutif, mais pas du tout du travail du deuxième décodeur. Hein ? Pour symétriser ce travail de décodage, il faut, Mathias, non pas retourner le temps, il faut le remonter. Il faut faire en sorte que le premier décodeur puisse aussi récupérer le travail du second. Alors évidemment, dans le temps, c'est inimaginable. Dans un circuit électronique, remonter le temps, c'est simple, puisque les données peuvent être mises en mémoire, remémorées, réutilisées, améliorées, etc. Donc, un circuit électronique, ça s'appelle la contre-réaction. Alors, la contre-réaction, c'est évidemment très simple à mettre en œuvre dans un circuit analogique. Ça se traduit par un fil, bon, parfois un filtre pour stabiliser. Dans un circuit numérique, et c'est le gros inconvénient des circuits numériques, de l'approche numérique, qui a par ailleurs beaucoup d'avantages. Mais son principal inconvénient, c'est que la contre-réaction ne peut pas être mise en œuvre facilement, puisque les temps ne sont pas homogènes. Quand une fonction, ne serait-ce que par exemple une fonction de permutation, voire lire, sortir des données permutées d'une mémoire, il faut d'abord les y avoir introduites. Il y a donc une latence qui est égale à la taille de la mémoire. Donc les temps de sortie et d'entrée ne sont pas homogènes. On ne peut pas tirer de fil comme ça immédiatement. Donc ça doit nécessairement passer par un processus itératif. Alors, le codage a été très longtemps une affaire américaine. Là, l'Amérique a a accusé le coup. Accusé le coup, mais ils ont aussi été très, très honnêtes. On a eu d'excellentes relations avec nos collègues. Mais n'empêche, ils sont quand même forts, ces Américains. Ils ont réussi à ressusciter un autre code qui s'appelle le code LDPC, Low Density Priority Check, inventé en 1964 par Bob Gallagher, toujours actif au MIT, et qui ne savait pas trop décoder. Et en utilisant le principe turbo, ils le savent très bien maintenant, et le code LDPC est devenu un concurrent très fort du turbo code. Il vient d'ailleurs d'être retenu dans la future DVB-T2. Il est extrêmement simple. Et vous avez le message d'origine, ce sont les D0 jusqu'à DK-1, il n'y a qu'à bit. Le message rajouté, les R0 jusqu'à RN-K-1. Et puis, on va faire en sorte que le message rajouté satisfasse un certain nombre de contraintes. Il y en a autant que de bits rajoutés. Et ces contraintes sont extrêmement simples. On fera en sorte que les sous-ensembles qui ont été choisis respectent la parité. C'est-à-dire qu'il y a à chaque fois un nombre pair de 1. Je donne 3 exemples. Alors, ce principe, c'est quelque chose qui peut s'enseigner ça dans le secondaire. Il y a tout de suite une difficulté, ce n'est pas un code implicite. C'est-à-dire qu'on n'a pas immédiatement R à partir de D. Il faut passer par des inversions de matrice, c'est pas évident. Mais en tout cas, la notion de diversité temporelle y est très forte. Si je prends par exemple le bit D5, eh bien j'aperçois, d'abord D5 est transmis en tant que D5, le récepteur aura déjà une première estimation de D5, peut-être erronée, mais il y en aura une. Et à travers ces 3 équations, le récepteur va aussi pouvoir disposer de 2 autres estimations de D5. D5, grâce à la deuxième équation, peut être vu comme D1 plus R0 plus R1 plus R1-K-1 modulo 2. Et la troisième donne DK plus DK-1 plus R3 plus R5. Donc voilà, ça se décode donc très bien en mettant en œuvre autant de processeurs que de variables, et plus les processeurs de parité, et en faisant s'échanger comme ça, à la manière turbo, les informations produites par les processeurs locaux. Évidemment, toujours sous forme de probabilité. Je passe ce transparent, c'est aussi un hot topic aujourd'hui, c'est le dilemme des cycles. Bon, c'est pour dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas construire un bon code sur graphe sans faire apparaître de cycles, mais les cycles sont préjudiciables à un bon décodage. Nous sommes aujourd'hui face à un dilemme qui est assez fort. Bon, donc, voici l'un de mes derniers transparents. Les récepteurs, et en particulier les décodeurs de correcteurs, deviennent de plus en plus distribués et probabilistes. C'est le cas des turbocodes, avec une granularité assez forte, il y a 2 décodeurs. C'est le cas des codes LDPC, avec une granularité beaucoup plus fine, il y a autant de processeurs que de valeurs binaires. Et donc, nous pouvons aujourd'hui reprendre à notre compte le Small is Beautiful d'Ernst, j'ai oublié son nom, l'économiste, Schumacher, en y rajoutant communication. Alors, Small plus Communication is Beautiful, sinon ça ne vaut pas grand-chose. Alors, évidemment, tout ça nous mène à observer une très très forte similitude avec le réseau neural biologique. La vie et le développement du cerveau se sont appuyés sur des principes simples. Le cerveau n'a pas produit de processeurs compliqués avec des équations compliquées. Il utilise des machines extrêmement simples, mais nombreuses, et un réseau de connexions extraordinairement dense. Et là, on peut noter des analogies très très fortes entre ce réseau de neurones biologiques et les décodeurs modernes en ce qui concerne la résilience, c'est-à-dire la capacité de la machine à résister à des pannes, l'homéostasie, variété du jeu d'entrée et réponse identique, la séparabilité des informations, l'importance des cycles. Il y a aujourd'hui une opportunité de recherche, et c'est aujourd'hui mon axe principal de travail, d'essayer d'exploiter, de peut-être d'identifier clairement les analogies entre les décodeurs modernes et le réseau neuronal, biologique. Voilà, la théorie de l'information est une science extrêmement jeune, mais elle traite de quelque chose qui est vieux comme le monde. Elle a considérablement progressé ces dernières décennies, avec des concepts qui rapprochent cette théorie. D'ailleurs, c'est un peu bizarre. Cette science qui est aujourd'hui devenue extrêmement importante, c'est la seule qu'on appelle d'appeler, qu'on continue d'appeler théorie. Il faudra bien un jour qu'on lui trouve un autre nom. Les applications sont tellement nombreuses aujourd'hui que, bon, c'est pourquoi la mettre à la distinguer de cette manière. Et donc, ces grands progrès qui ont été effectués à tout niveau dans les systèmes de télécommunication, soit au niveau de l'écriture d'informations, de son transport, de sa protection, etc., peuvent trouver des débouchés dans bien d'autres disciplines, et je pense particulièrement aux neurosciences. Voilà, je vous remercie.
Donc, je vais vous parler de spintronique et de l'impact de la spintronique sur les technologies de l'information et de la communication, non seulement informatique, mais aussi, on verra, télécommunication. Alors, avec la spintronique, on n'est pas tout à fait dans le thème de cette journée. Je parlerai de physique, mais je parlerai aussi de l'impact sur ces technologies-là. Alors, on connaît surtout de la spintronique. Quand, à l'occasion du prix Nobel, on a surtout entendu parler de la magnétorissance géante et de ses applications à la lecture du disque dur, à la lecture des iPods. Mais en fait, c'est la simplification des journalistes. La magnétorissance géante a été une étape d'un processus beaucoup plus long. Il y avait des choses avant, c'est-à-dire la physique de base sur laquelle s'est appuyée la découverte de la magnétorissance géante. Et ensuite, il y a eu tout le développement de ce qu'on appelle maintenant la spintronique, c'est-à-dire la révélation d'autres phénomènes qui, comme la magnétorissance géante, sont liés à l'influence du spin sur la conduction électrique. Et aujourd'hui, la spintronique est en train de se développer dans de multiples directions dont je parlerai. Qu'est-ce que va exploiter la spintronique ? On dit parfois que c'est une électronique qui exploite non seulement la charge, mais le spin de l'électron. Alors, elle l'exploite en plaçant sur le trajet des électrons des éléments, des fines couches de matériaux ferromagnétiques, dans lequel la mobilité des électrons pourra être très différente pour les électrons dont le spin est dans la direction d'aimantation et dans la direction opposée. On aura une conduction par deux canaux très différents, de conductivité très différente, et ce contraste est exploité dans des nanostructures. Au fond, la spintronique a pu voir le jour grâce à l'arrivée de nanotechnologies, de dépôts de couches ultra-minces pour la fabrication soit de multicouches, de jonctions tunnels, maintenant de nanocontacts, on parlera de piliers. Et l'exploitation de l'influence du spin dans ces nanostructures donne les effets de spintronique, GMR, c'est Giant Magnetoresistance, la magnétorissance géante, mais dans la spintronique classique, il y a aussi la Tunneling Magnetoresistance, TMR. Ce sont des propriétés classiques, je dirais, qui ont déjà des applications, les têtes de lecture des disques durs, les mémoires MRAM dans les ordinateurs. Et puis aujourd'hui, les développements actuels sont très divers. Au fond, par exemple, un secteur très important, c'est les phénomènes de transfert de spin. J'explique le principe du transfert de spin, parce que c'est un très joli principe. Dans une expérience de transfert de spin, on va manipuler l'aimantation, un moment magnétique, sans appliquer le champ magnétique, comme d'habitude, mais simplement par une espèce de transfusion de moments angulaires de spin amenés par un courant électrique. C'est au fond une espèce de transport d'aimantation à distance par un courant électrique. Et ça peut être utilisé, cette transfusion de spin, soit pour commuter une aimantation, on aura des applications bientôt pour l'écriture de mémoire, soit dans notre condition, pour générer des oscillations de cet aimant, de ce moment magnétique, et générer des signaux alternatifs dans le domaine des hyperfréquences, des micro-ondes, avec bientôt sans doute des applications dans le domaine des télécommunications. Ça, c'est un domaine actuellement très actif, le transfert de spin. Mais il y a aussi d'autres domaines de recherche très actifs, la spintronique avec semi-conducteur, si vous voulez, pour aller vers plus de fusion entre spintronique et électronique habituelle, la spintronique moléculaire, on a déjà parlé tout à l'heure de nanotubes dans un des derniers exposés, la spintronique à un électron, c'est-à-dire une des voies possibles pour le calcul quantique. Donc, je parlerai essentiellement, j'essaierai de parler surtout des développements actuels. C'est toujours plus excitant pour un chercheur de parler du futur que du passé. Mais je vais quand même commencer par une introduction assez générale. Premièrement, sur la physique de base et puis sur la découverte de la GMR, de la TMR et les premières applications. Donc, je commence par la physique de base. Donc, d'où vient l'influence du spin sur la conduction électrique? Un métal ferromagnétique, comme le fer ou le cobalt, est caractérisé par un décalage des bandes d'énergie, des bandes D dans ce cas-là. De telle sorte, c'est l'origine du magnétisme, du ferromagnétisme, c'est la différence de population entre spin majoritaire, spin up, et spin minoritaire, ça c'est le niveau de Fermi, c'est l'occupation maximum, et la conductivité électrique est contrôlée par le caractère des électrons au niveau de Fermi, qui sont dans des fonctions non différentes, et qui de façon très générale ont des mobilités très différentes, c'est surtout la mobilité qui joue. En première approximation, on peut dire qu'on a une conduction en parallèle par deux canaux indépendants, spin-up majoritaire, spin-down minoritaire. Et le contraste entre les conductivités des deux canaux peut être très important, surtout si on dope le métal avec des impuretés. Vous savez que les impuretés freinent les électrons, les défauts, les impuretés. Des impuretés qui ont des sections efficaces de freinage des électrons très différentes pour les deux directions de spin. Par exemple, vous voyez les résistivité dans les canaux down et up générée par 1% de ces impuretés-là dans le nickel. Et vous voyez que, par exemple, si je mets des impuretés cobalt, on aura une résistivité du canal de spin-down 20 fois plus élevée que celle du canal de spin-up. Ça veut dire qu'on aura des obstacles dans ce canal-là et, par contre, très peu d'obstacles dans l'autre canal. Par contre, pour d'autres impuretés, l'effet s'inverse. Ce ne sont pas des résultats nouveaux, ce sont des résultats de ma thèse, ceci. Et on comprenait, en 1970, à l'époque, ce genre de résultats par les théories développées dans l'école Friedel, je dirais. Par exemple, d'où vient ce pic pour la résistance de spin majoritaire, de spin 9? Eh bien, il vient cette direction de spin, de l'existence d'un niveau d'impureté près du niveau de Fermi, ce qui donne lieu, dans le langage de Friedel, à un étalier virtuel, à une forte diffusion. On avait déjà à l'époque certaines expériences qui contenaient déjà pratiquement le concept de la magnétoïsme géante, des expériences sur des alliages ternaires. Supposons qu'en nickel, je mette deux impuretés A et B, supposons d'abord qu'elles aient des asymétries de spin opposées, c'est-à-dire que l'impureté A va mettre des obstacles dans le canal down et l'autre aura l'effet opposé. Alors quand on les met en même temps, ça bloque, il n'y a plus de canal de libre et ça bloque les deux canaux et on a une augmentation de résistivité par rapport à l'addition de l'action de chacune. Comme on voit dans ces résultats expérimentaux, pour du cobalt et 1% de cobalt et rhodium dans le nickel, en fonction de la proportion, au lieu d'avoir une variation linéaire entre les deux extrêmes, eh bien, au milieu, quand les deux impuretés sont en même temps, elles bloquent les deux canaux et on a une augmentation forte de la résistivité, qui n'existe pas, par contre, si on a choisi deux impuretés d'asymétrie de spin identiques. À ce moment-là, les deux vont bloquer ce canal-là, mais ce canal restera libre, et ça se traduit expérimentalement par cette variation linéaire, et sans l'effet d'amplification. Alors, quel est le concept de la magnétoïsme géante? C'est remplacer les impuretés A et B par des couches magnétiques A et B. Et la situation de gauche va correspondre à une situation où les aimantations sont opposées, les deux couches auront des effets opposés sur une direction de spin donnée, et la situation de droite sera obtenue simplement en appliquant un champ magnétique, en mettant les aimantations des couches parallèles pour se trouver dans la situation de droite avec un canal libre. Simplement, si on connaît les équations de transport électrique, on sait que les électrons ne pourront connaître l'orientation relative des aimantations des deux couches que si leur distance est plus petite qu'une quantité que l'on appelle le libre parcours moyen, qui dans ces films métalliques est de l'ordre de quelques nanomètres. Et donc, il fallait attendre les nanotechnologies pour faire apparaître ces effets-là. Donc, c'est apparu, moi je me suis remis dans ce domaine de recherche, après avoir fait d'autres choses, dans les années 80-85, en collaboration avec Thomson CSF, qui avait développé les techniques d'épitarsie par jet moléculaire. Et il a été possible de fabriquer ce genre de multicouches ici. Les boules, ce sont des atomes, trois couches atomiques de fer, trois couches atomiques de chrome, par exemple, etc. C'est une multicouche. Pourquoi fer et chrome ? Pourquoi fer et chrome ? Parce que Peter Grandberg, coloréat avec moi du prix Nobel, avait montré en 86 que pour typiquement cette épaisseur de chrome, eh bien, on avait un couplage entre les aimantations des couches de fer adjacentes qui plaçaient les aimantations en direction opposée. Et c'était le système idéal donc, pour faire passer de antiparallèle à parallèle et provoquer l'effet recherché. Donc, ça menait rapidement à la découverte de la magnétruissée en géante, qui est cette variation de la résistivité en fonction du champ magnétique. Le champ magnétique fait passer d'une configuration appelée antiparallèle à champ nul à une configuration parallèle au-delà d'un certain champ, qui peut être dans certains cas extrêmement petit. Et on voit ce passage d'antiparallèle à parallèle baisse la résistivité de 80%. C'est l'effet de magnétruissance géante. Ça, c'est le même type d'effet observé à Jülich. Le courant est dans le plan des couches. L'interprétation, c'est semblable à celle que j'ai décrite pour les alliages ternaires, c'est-à-dire que dans la configuration parallèle, une direction de spin pourra traverser facilement toutes les couches, alors que dans la configuration antiparallèle, dans chaque canal, eh bien, il y aura du freinage une fois sur deux, et la résistivité sera beaucoup plus haute. Finalement, le courant est parallèle aux couches, mais à cause du mouvement aléatoire des électrons, il y a aussi une composante aléatoire verticale et la situation moyenne correspond à cette direction oblique. La condition, bien sûr, c'est que les épaisseurs soient très fines, de l'ordre du nanomètre, et on voit bien que l'effet maximum est obtenu par 0,9 nanomètres de chrome et puis rapidement décroît. Donc c'est un effet qui a été permis par la rencontre entre des idées de base et puis les progrès dus à la microélectronique, les progrès du dépôt de couches très minces sous ultravide. Je présente rapidement l'application principale, il y en a d'autres, c'est la lecture des disques durs. Sur un disque dur, l'information est stockée sur ces pistes-là, composées de segments de bits correspondant à 0 et 1 dont l'aimantation est vers la droite ou vers la gauche. Et le problème de détecter les champs magnétiques créés par ces bits actuellement, c'est détecté par un senseur, un capteur magnétoïssant géante, GMR. Et quand ce capteur voit ce champ magnétique, il laisse passer le courant beaucoup plus facilement parce que le champ magnétique va aligner les aimantations de toutes les couches magnétiques et donc ça permet de détecter. Et la sensibilité de la détection permet de détecter des champs magnétiques plus petits, donc des bits plus petits et donc de mettre plus de bits dans la même surface. Et comme l'a dit Eric Spitz tout à l'heure, c'est après l'introduction de la GMR, la densité stockée sur les disques durs a été multipliée par quelque chose comme 600 ou 700. Voilà. Et ça a permis aussi de fabriquer des disques durs économiquement. Ce qui a été important, c'est que ça a permis de fabriquer des disques durs beaucoup plus petits, de la taille d'une pièce de monnaie, dont d'étendre cette technologie de l'informatique à l'électronique grand public, des iPods, des appareils photographiques, des téléphones portables. Actuellement, on a par exemple Toshiba a développé ce disque dur de la taille d'une pièce de monnaie de 100 gigaoctets qui est destiné aux iPods prochainement. Il y a d'autres applications dans les techniques biomédicales, pour l'industrie automobile, mais j'en parle pas. Et je passe rapidement sur une deuxième phase de développement de la spintronique, la TMR, c'est-à-dire la magnétoresistance tunnel de jonction tunnel magnétique, qui sont cette fois composées de deux couches magnétiques séparées par une couche non plus métallique, comme le chrome, mais isolante, très fine, de telle sorte, mais suffisamment fine pour qu'il y ait transmission de courant électrique par l'effet quantique qui s'appelle l'effet tunnel, hein, qui existe quand les épaisseurs sont très petites, c'est-à-dire qui permettent à la fonction d'onde de baver de l'autre côté de la couche isolante. Le résultat final est le même que pour la magnétoquissance géante. Les résistances de ces jonctions tunnels sont différentes pour les configurations parallèles et antiparallèles. Et c'est un effet en fait qui avait déjà été vu de façon pas très claire en 1975 en France par Julière à Rennes, mais cet effet apparaissait à basse température, était tout petit, était difficilement reproductible, et c'est simplement en 1995 que les progrès technologiques ont permis vraiment de réaliser des jonctions tunnels fiables et de systématiquement de retrouver de forts effets de magnétoresistance très reproductibles. Les applications existent déjà. En fait, actuellement, on assiste au passage de la GMR à la TMR dans la tête de lecture des disques durs. La prochaine génération, ça va être de nouveau la GMR, mais avec le courant perpendiculaire aux couches. Et puis, une autre application, c'est quelque chose dont vous avez sans doute entendu parler, c'est les MRAM et les STT-RAM. En fait, vous savez que dans ordinateur, vous avez la mémoire de masse qui est le disque dur, une mémoire de masse très peu chère, très massive. Mais par contre, le temps d'accès à un bit de la mémoire est très long, une milliseconde, c'est ce qui ne permet pas aux ordinateurs de travailler à la vitesse actuelle. Et donc, quand vous allumez votre ordinateur, vous stockez une partie de la mémoire du disque dur sur des RAM, hein, des RAM, des mémoires à base de semi-conducteurs, une espèce de capacité, qui sont des mémoires d'accès très rapide, la nanoseconde, mais volatiles. Elles meurent quand vous éteignez l'ordinateur, il faut sauvegarder avant. Et d'autre part, même pour les 10 RAM, par exemple, il faut rafraîchir la mémoire à peu près toutes les millisecondes, ça dépense de l'énergie. Même quand l'ordinateur ne travaille vraiment pas. L'idée des MRAM, c'est de remplacer les cellules de mémoire par des jonctions tunnels, avec deux états correspondant à ces deux configurations-là, entre des lignes bitline et support lines, la commande par les champs magnétiques dans la première génération générés par des pulses de courant dans ces lignes de courant, la lecture en regardant la résistance de la jonction tunnel. La première génération lancée sur le marché par Friskel il y a trois ans presque, a eu des difficultés. Les densités, la vitesse est correcte, mais les densités ne sont pas très fortes et l'impact est assez faible. Et c'est vraiment quelques applications mineures dans la technologie, par exemple les systèmes de sauvegarde des ordinateurs. On attend beaucoup plus de la génération qui est actuellement en développement, qui va prendre avantage à la fois de gros progrès dans la TMR, hein, des magnétoresistances beaucoup plus fortes, et puis du renversement par l'effet dont j'ai parlé au début, l'effet de transfert de spin, renversement par aimantation amené par un courant électrique. Et je reviendrai sur ces effets de transfert de spin et d'écriture par transfert de spin. Je termine cette partie classique avec quelques commentaires sur la TMR et la forte magnétoresistance de ces jonctions tunnels de la nouvelle génération avec barrières tunnels de MGO. Le principal progrès est venu du passage à des jonctions tunnels monocristallines. C'est encore un progrès technologique qui a permis ça. C'est des fabrications très délicates. Les effets sont très importants. La résistance passe de 1 à 6 quand on passe de parallèle à antiparallèle. Et surtout, je vais parler de la physique parce qu'au fond, pour vous montrer que c'est pas uniquement de la technologie, la spintronique. Il y a aussi, il faut une bonne compréhension de la physique, c'est-à-dire par exemple des fonctions d'onde, des électrons dans ces matériaux, du mécanisme de l'effet tunnel. J'explique pourquoi ces jonctions tunnels ont une très forte magnétorésistance. Ceci représente un schéma d'une barrière de MgO entre deux électrodes de cobalt. Et dans un métal comme le cobalt, les fonctions d'onde, les fonctions de bloc, sont des fonctions de diverses symétries. Vous avez la symétrie correspondant à la symétrie de la fonction d'onde autour des sites atomiques. Dans ce cobalt, vous aurez par exemple des symétries delta 1, delta 5, delta 2 prime. Et le MgO, qui est aussi un monocristal, va avoir des fonctions évanescentes, des trois types également, des fonctions décroissant exponentiellement, des fonctions d'onde. Mais celle qui va passer le plus facilement avec une décroissance très lente, c'est la symétrie delta 1. Le point clé, c'est que pourquoi le cobalt a été choisi ici, c'est parce que au niveau de Fermi, pour les électrons qui vont contribuer à la conduction, la symétrie delta 1, la bonne symétrie, n'existe que pour la direction de spin majoritaire up. Tout va bien se passer quand les aimantations sont parallèles des deux côtés. Un électron delta 1 de spin up va pouvoir traverser et se connecter à une fonction d'onde de l'autre électrode de symétrie delta 1 de spin majoritaire. Par contre, si vous renversez l'aimantation de la deuxième couche, cet électron va de spin up dans ce matériau, va être de spin minoritaire, puisqu'on a renversé l'aimantation, il n'y a pas d'état pour le recevoir, le courant ne va pas passer. Donc vous voyez que au fond la performance du tunnel vient d'une bonne compréhension des fonctions d'onde dans ces matériaux, de la répartition des diverses symétries. Et d'autre part, cela montre que la notion de polarisation de spin qui apparaît toujours en spintronique est une notion assez subtile. Elle caractérise pas un matériau magnétique, elle caractérise l'ensemble ici, jonction tunnel, matériau magnétique. La jonction tunnel filtre une symétrie et c'est pour cette symétrie que le contraste est important entre les directions de spin. De la même façon que dans les premiers résultats d'il y a longtemps que j'ai montré, c'était l'impureté qui donnait le meilleur contraste entre les deux canaux. Voilà, je passe à la spintronique d'aujourd'hui. Je passe au axe récent. Au fond, par exemple, transfert de spin, où dans ces expériences, on prépare un courant polarisé de spin avec un matériau magnétique et on le fait passer, on le fait couler, injecte, soit dans une molécule, soit dans un métal non magnétique, soit dans un semi-conducteur. Et je vais dire deux mots d'une physique commune qui est la physique de l'accumulation de spin, qui permet, en fait, aux interfaces, on va voir qu'il y a l'accumulation de spin. Et dans ce cas-là, quand il y a un flux d'électrons passant d'un matériau à l'autre, ce qui n'était pas le cas dans la magnétorisation géante initiale, on a des effets d'accumulation de spin qui vont diffuser et qui vont en fait permettre au courant polarisé de spin d'être propagé à longue distance et donc d'ouvrir un certain nombre d'autres possibilités. Au fond, c'est un effet qui a été découvert quand on est passé à la configuration GMR en courant perpendiculaire, par exemple dans ces couches déposées dans des trous. On voit qu'elle ne décroît pas aussi rapidement que dans la configuration current in plane. On a des effets qui apparaissent jusqu'à l'approche du micron. Et ça vient du fait que l'accumulation de spin fait que la longueur caractéristique devient la longueur diffusion de spin et non plus le libre parcours moyen. Et cette longueur de diffusion de spin va pouvoir être très longue dans certains matériaux et donc élargir le potentiel de la spintronique. Au fond, l'effet d'accumulation de spin peut être expliqué facilement. Supposons un matériau magnétique, un matériau non magnétique. Le courant est amené essentiellement incident par un des canaux. Il part également par les deux canaux à longue distance. Donc, il y a accumulation de ce spin. Accumulation, ça veut dire séparation des niveaux de Fermi des potentiels chimiques des deux directions de spin. Cette accumulation diffuse, s'étend à longue distance, une distance qui peut être très longue. Les nanotubes de carbone ont des distances de propagation très longues, plus grandes, mettons 30-40 microns. Ceci génère aussi des renversements de spin qui vont adapter les flux. Et donc, on va avoir une vaste zone d'accumulation de spin dans laquelle le courant va se dépolariser lentement et restera polarisé jusqu'à des distances qui peuvent être de l'ordre de 10, 20, 30 microns. Donc, on arrive dans ces effets de spintronique à des structures différentes qui vont être latérales et qui vont permettre de manipuler des courants de spin sur des distances assez longues. Je ne parle pas des équations qui permettent de décrire tout ça. Elles s'adaptent à un certain nombre d'effets. On peut, par exemple, je peux dire un résultat. L'injection dans un semi-conducteur pose des difficultés. Pourquoi ? parce que la densité d'état est beaucoup plus faible du côté semi-conducteur ici. Donc pour le même décalage d'énergie, on a beaucoup plus de densité d'accumulation. Donc pour le nombre de spin-fif est beaucoup plus petit de ce côté, est beaucoup plus grand du côté métallique, par contre, beaucoup plus grand du côté métallique, parce que la densité d'état est plus forte, et la dépolarisation se fait avant d'arriver à l'interface. Ça a été une difficulté qu'on sait résoudre maintenant, et je passe maintenant aux expériences récentes, je passe au transfert de spin. Le transfert de spin, la boule, c'est une boule de métal ferromagnétique, j'envoie des électrons avec un courant, et... par transfusion de spin, je renverse l'aimantation. Ici, autre régime, génération d'oscillation, de précession, et finalement, génération d'un signal électrique de haute fréquence. Le concept a été introduit par John Slonczynski, et est très joli. C'est un concept, un peu le même concept que l'on applique quand on joue à la pétanque, mais pour la quantité de mouvement linéaire, mais de rotation. Supposons que l'on fabrique avec une première couche un courant de spin polarisé dans cette direction-là. Ces électrons vont traverser l'autre couche magnétique. L'interaction dite d'échange va aligner l'aimantation, la polarisation du courant, mais cette interaction d'échange est spin conserving, conserve le spin. Ce qui veut dire que le spin total du système a été conservé, la quantité de mouvement de rotation a été conservée, et donc cette partie transverse qui a été perdue par les électrons a été transmise au spin total de la couche, hein, donc ça veut dire une rotation ou un couple, un torque agissant sur l'aimantation. Hein, de la même façon que quand vous faites un carreau en pétanque, vous transmettez la boule que vous lancez, s'arrête et transmet sa vitesse à la boule qui est projetée en avant. Ça, c'est la même chose, mais pour la quantité de mouvement de rotation. Ce genre d'effet nécessite des coûts de densité de courant assez élevés, ne peut se faire que dans des nanostructures que l'on peut faire aujourd'hui grâce au progrès des nanotechnologies, la lithographie par faisceau électronique, ces sortes de piliers, vous voyez, une couche, cette couche polarisatrice va fabriquer le courant qui va manipuler l'aimantation de la couche libre, ça pourrait être aussi une jonction tunnel ici, et on obtient deux types d'effets, comme je l'ai déjà dit, soit un renversement d'aimantation, soit si un champ magnétique empêche la rotation de l'aimantation, eh bien, elle va se stabiliser dans une précession entretenue où le couple de transfert de spin agit comme une friction négative et on générera des oscillations de tension. Ça, c'est un exemple de résultat du premier processus. Si vous voulez, c'est la résistance, la rotation de l'aimantation est détectée par l'effet GMR, l'augmentation de résistance. On voit un certain courant, la résistance augmente, ça correspond aux commutations de parallèles et antiparallèles, et on revient en arrière de cette façon-là. Application, comme je l'ai dit, ceci sera appliqué à la prochaine génération de RAM, qu'on appelle déjà STT-RAM, où la commutation se fera non plus par les champs magnétiques créés par des courants, mais directement par transfert de spin, évidemment, avec le désavantage de cette commutation dans le RAM initial, c'était que ce n'est pas très local. Hein. On vise cette jonction tunnel au croisement entre deux lignes, et puis on risque d'affecter aussi la configuration magnétique des voisins. Ça a été une limite à l'intégration, à l'augmentation des densités. Ça, c'est beaucoup plus efficace, et les résultats annoncés par plusieurs compagnies, Sony, Hitachi et d'autres, montrent qu'on peut aussi, c'est un avantage en termes de consommation d'énergie, les densités de courant sont diminuées par à peu près 2 ordres de grandeur. Et donc, il y a déjà des projets assez avancés d'intégration de ce type de STT-RAM dans la technologie des ordinateurs. Je décris une des applications, c'est sur les microprocesseurs, remplacer la mémoire CMOS faite de SRAM et de flash en intégrant au-dessus de la logique CMOS ces STT-RAM ici, ce qui, d'après ce que disent les articles, amène non seulement une réduction de taille, une diminution importante du nombre de transistors, d'où des gains à la fois de vitesse, de consommation d'énergie. Et donc, en fait, ceci, je pense que ce type d'application va bientôt arriver dans la technologie des ordinateurs. En fait, ça représente, je dirais, une étape de structure hybride où on intègre des éléments de spintronique sur du CMOS. Il y a d'autres projets de ce type-là. Il y a des transistors à effet de champ à spin qui sont projetés, des espèces de mémoires, des portes logiques reprogrammables en changeant l'aimantation de certains éléments et universelles. Donc, il y a toute une génération de composants qui sont projetés. Les seuls qui marchent vraiment actuellement, qui arrivent, je dirais bientôt dans la possibilité d'application, ce sont les SCTRA. L'autre, au fond, on peut dire que c'est une famille de composants hybrides qui peut permettre sans doute de prolonger un peu l'évolution de la loi de Moore, en attendant peut-être d'appliquer la spintronique pour aller exactement beyond CMOS. L'autre facette du transfert de spin, c'est pendant ces précessions-là, l'angle entre les aimantations des deux couches a une variation oscillante, donc la résistance de la tricouche, l'effet Jamar, oscille. Dans le courant qui la traverse, ça donne une tension oscillante entre haut et le bas, donc une puissance micro-ondes exploitables, dont vous voyez un exemple ici, dans la gamme de 3-4 GHz, dans une structure purement métallique. En fait, c'est une structure purement métallique, ça c'est une jonction tunnel. Application, enfin c'est de la physique intéressante, ça mélange à la fois des problèmes de transport, des problèmes de dynamique non linéaire très subtils pour décrire ces précessions-là et des problèmes de micromagnétisme. Je donne un autre exemple de la flexibilité de ces effets de transfert de spin. Dans ce type d'expérience, on injecte dans une tricouche par un tout petit contact, nanocontact, un fort courant électrique. Le champ magnétique circulaire d'abord génère cette structure dite vortex de l'aimantation sous le nanocontact, et d'autre part le transfert de spin, le couple transfert de spin va provoquer ces rotations du centre du vortex. Ça c'est une simulation. Le résultat expérimental, on a aussi des oscillations d'aimantation dans une des couches par rapport à l'aimantation de l'autre, d'où encore une puissance micro-ondes dégagée. Ici, il y a des fréquences plus petites que dans le slide précédent. Voilà. Les applications, c'est plutôt le domaine des télécommunications, hein, c'est-à-dire l'avantage de ces oscillateurs de transfert de spin, qu'on appelle déjà STO, hein, c'est le facteur de qualité qui atteint 18, 20 000, l'agilité surtout, la possibilité de régler la fréquence en changeant simplement un courant électrique, ce qui peut se faire assez rapidement et assez facilement. Les désavantages actuels, pour les jonctions tunnels, une puissance assez forte qui arrive aux microwatts, quelques microwatts, ce qui n'est pas encore suffisant, mais presque. Par contre, les largeurs de risque sont assez importantes. Pour les jonctions purement métalliques, on peut avoir des facteurs de qualité importants, mais il faut multiplier la puissance. Et un challenge actuel, c'est la synchronisation de ces mouvements-là, de ces mouvements de transfert de spin. Exemple de synchronisation obtenu à CNRS Thales, hein, on génère des vortex et des mouvements de vortex par 4 nanocontacts dans une tricouche, et on va pouvoir les synchroniser leurs mouvements pour augmenter la puissance. Enfin, augmenter la puissance comme le carré du nombre d'oscillateurs. Quand la distance est très grande, 1 micron, il n'y a pas synchronisation, on a 4 arrêts différents. Quand la distance devient petite, eh bien, on a synchronisation dans un certain nombre de courants. Vous voyez que la ligne progressivement se rétrécit, et au-delà de ce point-là, au-delà de ce courant, on a une ligne beaucoup plus étroite et beaucoup plus intense qui correspond aux synchronisations. Donc, voilà. Je vais montrer encore un autre exemple de spin transfert. Je sauterai sur la partie semi-conducteur. Je donne un autre exemple intéressant pour les technologies de l'information. Une autre façon d'utiliser le transfert de spin, c'est de pousser une paroi entre deux domaines. Ceci, c'est un nano-ruban magnétique. Ici, c'est une frontière entre deux domaines magnétiques, d'aimantation opposée. Et il est possible d'utiliser le transfert de spin pour pousser simplement cette paroi. Ceci, c'est un exemple où, par des pulses de courant de 5 nanosecondes, on a poussé la paroi entre deux images de quelques centaines, de quelques dixièmes de microns. Et il y a un développement intéressant actuellement qui est surtout poursuivi à IBM pour le remplacement éventuel du disque dur. Au fond, le désavantage du disque dur, à côté de sa mémoire massive, son désavantage, c'est la partie mécanique qui est fragile, hein, comme vous savez. Et ça, c'est un projet de disque dur, au fond, de système de mémoire de stockage massif d'informations purement solid state, où l'information est stockée sous la forme de parois, un peu comme dans les trains de bulles qui étaient développés à une certaine époque. Vous voyez ici, par exemple, 1 correspondant à l'existence d'une paroi à ce site-là, 0, pas de paroi, tout est rouge. Et de pousser ces parois de cette façon-là par un courant électrique pour les faire circuler et détecter l'information par un capteur GMR ici, ou écrire l'information, ces rubans étant déposés dans des tranchées, dans du silicium. Donc c'est un projet assez ambitieux et difficile, mais qui peut-être réussira. Moi, j'y crois moyennement, mais on peut espérer quand même que ça réussira pour avoir l'équivalent du disque dur avec sa mémoire massive, mais avec purement solid state et certainement plus robuste. Je vais dire simplement qu'il y a un certain nombre de matériaux très prometteurs à côté des semi-conducteurs pour la spintronique du futur. C'est les nanotubes de carbone, c'est le graphène, qui ont l'avantage par rapport aux métaux et semi-conducteurs, un certain nombre d'avantages. Au fond, les métaux sont caractérisés par une grande vitesse, mais un temps de relaxation, de cohérence du spin très court, ce qui fait que la longueur de diffusion de spin est relativement courte. Dans les semi-conducteurs, le temps de vie du spin peut être plus long, mais la vitesse dans les systèmes où le temps de vie est long est petite, donc la longueur de diffusion de spin est relativement petite. Ces nanotubes, le graphène, c'est-à-dire un nanotube déplié, ont l'avantage d'avoir à la fois une grande vitesse et un temps de vie très long, dû au faible coupage phénorbite du carbone intrinsèque. Et donc ce sont des matériaux d'avenir, je dirais, pour la spintronique que nous étudions, mais j'en parlerai pas. Et je dis deux mots sur ce qu'on peut faire en nano, spintronique nano, dans la direction du calcul quantique. Vous savez que, au fond, le calcul classique se fait avec des bits, qui sont des 0 et des 1, et le calcul quantique avec des qubits, qui sont des qubits. Ce sont des systèmes qui peuvent avoir soit un état 0, soit un état 1, soit la fonction d'onde, qui est la combinaison linéaire de ces deux états, avec, évidemment, pour un système de n qubits, un stockage d'informations, enfin une quantité d'informations qui est en 2 puissance n et donc qui augmente exponentiellement avec le nombre de qubits. Il y a plusieurs voies pour le qubit, une des voies étant mettre un électron dans une boîte quantique et les deux états 0 et 1 étant up et down et toute la combinaison de ces états-là. Il y a un certain nombre de travaux assez fantastiques qui ont déjà été faits dans cette direction-là en isolant des qubits, des boîtes quantiques, des parties dans un gaz bidimensionnel de façon à avoir une série de qubits avec des portes qui peuvent s'ouvrir pour intriquer les qubits et donc avoir une possibilité de porte logique. Ce qui s'est fait actuellement, c'est assez peu lié à la spintronique en ce sens que on utilise l'effet Zeeman d'un champ magnétique assez fort, soit pour initialiser le système, soit pour lire l'information globale. Et donc, il y a certainement une voie possible pour la spintronique qui n'a pas encore été bien explorée, où on utilise cette fois des matériaux magnétiques pour injecter à travers des jonctions tunnels un spin de direction donnée ou pour lire à travers la jonction tunnel l'état de spin d'un qubit. Enfin, lire l'état de spin d'un qubit, ce n'est pas si simple, mais enfin, je résume la situation. Et donc, actuellement, on se lance dans notre laboratoire. C'est un projet qui est impulsé par par de survivre, par Emmanuel de survivre, qui regroupe plusieurs laboratoires de Thalès, dans cette direction du qubit à spin. On a déjà des systèmes de nanospintronique qui ressemblent déjà au qubit, par exemple ce type de structure où on injecte à partir d'une électrode d'un contact ponctuel un spin dans un ou deux spins ou trois spins dans une petite particule. Au fond, c'est dans ces plots de courant en fonction de la tension, ces pics, ça correspond à un électron injecté, deux électrons injectés, etc. Donc, il y a des possibilités à aller vers le calcul quantique, vers les qubits, dans ce type de structure, avec des particules beaucoup plus petites que les boîtes quantiques qu'on peut faire avec les semi-conducteurs, et d'autre part, sans la nécessité de travailler à très basse température, nécessité par le très faible splitting entre les niveaux, ou la nécessité d'utiliser l'effet Zeeman, qui n'est effectif qu'à très très basse température, pour un électron. Et il y a, au fond, encore une fois, ce sont des matériaux comme le graphène qui seront peut-être les plus intéressants pour ce genre d'application. Ceci, c'est une image tirée d'un papier récent d'une équipe de Bâle qui montre un schéma possible de qubits. On isole dans le graphène des zones par des grilles pour différents qubits. D'autres grilles permettent de réaliser des portes logiques pour manipuler cette information quantique. Donc, je vais conclure rapidement. D'ailleurs, la spintronique, c'est une science relativement jeune. JMR, c'est il y a 20 ans, même s'il y avait des choses avant, mais qui actuellement se développe bien. Je dirais que c'est un petit bébé, mais qui pousse bien. Et je vous remercie pour votre attention.
C'était Albert Fert, membre de l'Académie des sciences, prix Nobel de physique. Il développait l'impact de la spintronique sur les technologies de l'information et de la communication. Il s'exprimait avec l'orateur précédent Claude Béraud de l'Académie des sciences dans un colloque organisé par l'Académie et la Société de l'électricité, de l'électronique et des technologies de l'information et de la communication. C'était en février 2009. Le thème portait sur le traitement de l'information. Canal Académie a fait le choix de retransmettre ce colloque en deux parties. Retrouvez le premier volet sur le site canalacademie.com où vous pourrez entendre Mathias Fink et Olivier Faugiras, tous deux membres de l'Académie des sciences. Restez à l'écoute de Canal Académie et vous pourrez également télécharger nos émissions en compagnie d'Albert Fert pour en savoir toujours plus sur la spintronique. Merci de votre écoute et à très vite pour de prochaines retransmissions.